soir. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, peut-on démocratiser les grandes écoles? Le gouvernement et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal en particulier, a entamé une réflexion sur la démocratisation de l'accès aux grandes écoles. Mais par quelle mécanique institutionnelle serait-il possible de contrer des déterminismes géographiques et sociaux qui pèsent lourd dans les choix d'orientation des lycéens et des lycéennes? Chaque grande école se pose la même question. Faut-il changer les procédures d'admission? Comment élargir la base sociale des étudiantes et des étudiants? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons posé à nos quatre invités ce soir. Alexandre Moati, il est polytechnicien et docteur en histoire des sciences. Nesrine Slaoui est journaliste passée par Sciences Po Grenoble. Nassim Larfa est chargé d'affaires publiques à la Mutualité et il est ancien président d'Ambition Campus, il nous en parlera. Et Marianne Blanchard est sociologue et maître de conférences à l'Université de Toulouse.
Je crois que refuser de voir que l'ascenseur social a cessé de fonctionner et qu'il est devenu l'exception plutôt que la règle dans notre pays, c'est condamner de manière définitive notre modèle méritocratique dans son ensemble. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement a décidé de s'attaquer à cette question des inégalités. Ça a été le cas dès le premier âge avec la mise en place du plan dédié aux 1000 premiers jours. Ça a été le cas à l'école avec le dédoublement des classes. C'est aussi à l'enseignement supérieur de prendre aujourd'hui sa part. C'est pourquoi j'ai missionné un certain nombre d'écoles et l'idée est de leur demander de nous faire des propositions concrètes pour que la mixité sociale et géographique devienne une réalité dans ces écoles. Je ne souhaite pas le renoncement à l'excellence. Je souhaite simplement que le pacte républicain entre l'enseignement supérieur et les citoyens soit respecté.
Voilà, il s'agissait de l'intervention en juin dernier, après le grand débat, de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonsoir Alexandre Moati, il faut peut-être remettre notre discussion dans le long fil de cette année 2019, qui a vu évidemment le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat, et également justement ces préoccupations de démocratisation d'accès aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur, telles qu'elles ont été présentées par Frédéric Vidal en juin dernier.
Oui, tout à fait. Je pense que vous rappeliez ce qui s'est passé en 2019. La première mesure qui est annoncée par M. Macron dans son discours du 15, reporté au 25 avril, c'était la suppression des grands corps. C'est vraiment le rapport aux élites, en fait. Les grands corps, le corps des mines, le corps des ponts, l'inspection des finances, le Conseil d'État. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que la démocratisation a été lancée par Mme Vidal. Alors, en effet, c'est un enjeu important. Comme tout ce dont on va parler, bien sûr, mais je pense que vraiment, il faut vraiment le remettre en contexte dans cet aspect-là. C'est-à-dire, je rappelle quand même ce que disait le sociologue Ezra Suleiman de Princeton il y a 40 ans, quand même.
Oui, c'était une grande voix des années 70 et 80.
Oui, mais il se relie toujours très bien, avec beaucoup d'intérêt et d'actualité. Il disait, l'élite française a toujours réussi à limiter aux conditions d'accès le débat à la concernant, afin d'esquiver toute discussion sur sa compétence, son utilité et ses résultats effectifs en politique, dans l'industrie. Je crois que donc il faut avoir ça en tête. Est-ce que donc ce qui nous est proposé sur la démocratisation, est-ce que c'est un leurre, un appôt par rapport à ce contexte-là? Et deuxième élément de contexte, je dirais simplement, c'est un contexte historique sur les 10 dernières années cette fois-ci, puisque c'est pas un marronnier médiatique. C'est un marronnier de l'action publique, puisqu'on retrouve un discours de M. Sarkozy à Polytechnique en 2009 avec exactement les mêmes propositions. En fait, les mêmes propositions qui sont faites là qu'on voit en ce moment.
Alors, quelles sont-elles, ces propositions?
Alors, une classe de mise à niveau post-bac, comme celle... À l'époque, on parlait beaucoup de celle qui avait été faite à Henri IV 2006-2012, qui s'est intégrée dans quelque chose de plus large, justement, et ça pose problème, à mon avis.
On ne touche pas au concours, rassurez-nous. on est en France, donc on ne touche pas au concours.
Oui, ça reste, on reste dans un contexte que je disais tout à l'heure. On oublie les superstructures de formation du pouvoir et de l'enseignement supérieur en général. Donc, classe de mise à niveau post-bac, 25 à 30% de boursiers dans les classes préparatoires aux grandes écoles, tutorat des boursiers. Donc, c'est des choses qui existent, hein, heureusement, d'ailleurs. Enfin, pas le taux en question, mais le tutorat, il y a des choses très bien qui ont été faites. Hein. Voilà. Quelle impulsion nouvelle veut-on donner? Voilà, c'est ça qui est important.
Marianne Blanchard, vous êtes sociologue et maître de conférence à l'Université de Toulouse. Vous travaillez justement sur ces accès, justement, de discrimination, ou pour empêcher les discriminations pour l'accès au supérieur, en particulier aux grandes écoles. Est-ce que vous avez l'impression que ça se répète, vous qui travaillez depuis un certain temps sur ces questions-là? C'est-à-dire que, comme vient de le dire Alexandre Moati, bien, on en a parlé sous Chirac, on en a parlé sous Sarkozy, sous Hollande, et maintenant on en parle sous Macron, mais tout compte fait, tout changer pour que rien ne change.
Oui, alors c'est vrai que depuis le début des années 2000, on a une récurrence de cette thématique, hein, de ce qu'on a appelé l'ouverture sociale des grandes écoles, qui est apparue d'abord avec le constat que malgré la généralisation de l'accès au baccalauréat, on avait toujours de fortes inégalités dans l'enseignement supérieur, et que c'était moins une question d'accès à l'enseignement supérieur que d'accès aux filières. Et on a vu que, voilà, que ça restait très différencié. Et d'autre part, on a eu aussi des acteurs, des écoles qui se sont emparés de ces questions, donc Sciences Po et l'ESSEC notamment. Mais effectivement, on tourne toujours un peu autour des mêmes thématiques, des mêmes solutions.
Et chacune de ces grandes écoles, l'École normale supérieure ou d'autres, ne cesse de dire, mais nous avons déjà fait des efforts, nous avons déjà réfléchi à cette question depuis longtemps, etc. Donc effectivement, comme si c'était... Ça s'inscrivait dans une longue durée, mais avec une impression qui est que ça ne change pas beaucoup.
Non, parce que finalement, on est toujours sur des mesures assez marginales, qui adoptent toujours une perspective très individualisée. On va cibler quelques talents, quelques pépites, quelques élèves à potentiel, et comme
on
si
va les pousser.
Ça, voilà, on va les pousser, mais sans finalement, hein, enfin, pour reprendre la citation faite tout à l'heure, c'est-à-dire sans questionner l'existence même du système, des modes de recrutement, en disant bon bah voilà, finalement, si on arrive à faire accéder quelques boursiers en plus à ces établissements, l'honneur est sauf, les élistes restent légitimes.
Et sur ce point, Nassim Larfa, vous avez donc créé Ambition Campus, qui a été une façon de pousser, justement, de tutorer ou de mentorer, comme on dit aujourd'hui, j'ai appris ce mot récemment, des élèves pour les conduire justement à des concours de grandes écoles. Quelle était l'ambition? Est-ce que c'était pour s'inscrire dans une vieille tradition républicaine? Est-ce que c'était pour rénover cette tradition républicaine?
Pour préciser du coup votre description d'Ambition Campus, c'est-à-dire qu'Ambition Campus intervient en classe de terminale. Et ça a quand même son importance dans l'analyse qu'on veut faire des inégalités sociales, des inégalités d'accès aux grandes écoles. Aujourd'hui, le constat, il est simple, pas assez de boursiers, pas assez d'enfants d'ouvriers dans ces grandes écoles. En revanche, les dispositifs qui ont été mis en place et que vous avez cités, convention d'éducation prioritaire à Sciences Po depuis 2001, parcours mentorat, tutoré à l'ESSEC, interviennent en classe de terminale. En classe de terminale, j'ai envie de dire que le mal est déjà fait. On est dans le temps additionnel. On peut certes sauver certains destins, mieux informer certains élèves, sauver les meubles, mais on renverse pas des trajectoires. Juste un chiffre pour contextualiser mon propos. À l'entrée au collège, les enfants scolarisés donc au collège représentent 27% de fils d'ouvriers. En terminale générale, ils ne sont plus que 17%.
C'est-à-dire que ça a fondu entre-temps.
Ça a fondu entre-temps. Les enfants de Tchad, du coup, se sont imposés en proportion. Ils sont 18% au collège, ils sont 29% finalement en filière générale. Donc mettre en place des processus pour faciliter l'accès aux grandes écoles, oui. Mais en classe de terminale, finalement, ça intervient trop tard. Et on peut plus renverser des trajectoires de manière macroéconomique, simplement sur certains cas. Ce qui a parmi, notamment Ambition Campus, puisque Ambition Campus suivait et suit toujours aujourd'hui entre 120 et 150 lycéens scolarisés dans les zones d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, en leur apportant un soutien en matière d'information. L'information en matière d'orientation dans l'enseignement supérieur est une question fondamentale. Également en assurant une prise de parole en public, préparation au concours, etc.
Ce qui veut dire, Nesrine Slaoui, bonsoir. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut remonter plus haut que ce que l'on imagine habituellement. C'est-à-dire que les questions de discrimination, elles remontent parfois, pour certains, au lycée, dernière classe du lycée, première classe du lycée, ou même au collège, et peut-être même au primaire, on ne sait pas. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on se pose pour le supérieur et pour les grandes écoles, il faudrait donc remonter très loin dans la chaîne pour pouvoir mieux comprendre comment ça s'est institué, cristallisé.
Exactement, c'est ce que dit Nassim, et avec quoi je suis totalement d'accord, c'est le fait que, en fait, le milieu social détermine clairement dès notre plus jeune âge si on va faire des grandes études, si on va faire des grandes écoles ou si on va plutôt faire un BTS, un bac pro, etc. Par exemple, Nassim, quand il cite les chiffres, il faut savoir qu'à Sciences Po, les chiffres, c'est à peu près 7% d'enfants d'ouvriers. Nous sommes que 7%, c'est terrible par rapport à la proportion dans la société. Et donc, c'est comme ça qu'on voit qu'en fait, dès le plus jeune âge, on est cantonné à un seul milieu social. Et puis, c'est difficile d'en sortir. C'est une violence aussi d'en sortir. Ça, on en parle très, très peu. Et c'est parce qu'il faut s'adapter. Il faut adapter notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de s'habiller. C'est toute une adaptation qu'on ne nous apprend pas à l'école. Parce qu'à l'école, on nous apprend des savoirs, c'est des connaissances, des auteurs, etc. Donc, il faut avoir une curiosité pour les apprendre, mais il y a une réalité qu'on a du mal à accepter, c'est que pour entrer dans ces grandes écoles, c'est au-delà même de connaissances théoriques d'auteurs, c'est tout un savoir-être. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai énormément changé. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans le sud de la France, donc j'avais un accent du sud. Je crois qu'aujourd'hui, vous ne l'entendez plus.
Non.
Tout ça, c'est un travail énorme sur moi-même, justement, pour supprimer cet accent et ne pas être discriminée quand je passais mes oraux pour être admise à Sciences Po. D'ailleurs, je précise, j'ai aussi fait Sciences Po Paris, j'ai fait les deux.
Et donc, justement, à Sciences Po Paris, 70% d'enfants de CSP+. Alors qu'il y en a 18% dans la société en général, d'une certaine façon. Donc ça veut bien dire effectivement qu'il y a un léger déséquilibre. Alexandre Moati, vous êtes historien des sciences, donc vous avez cette dimension historique qui nous intéresse aussi dans ce débat de ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui a été fait à la Libération en 1945, en créant l'ENA, qui se voulait justement une filière d'excellence, mais très ouverte, en particulier aux anciens résistants, à tous ceux qui avaient des acquis de leur vie qui leur permettait d'entrer dans ce genre d'endroit pour pouvoir ensuite administrer la France, devrait être refait, c'est-à-dire rebattre les cartes d'un système qui, momentanément, s'est complètement cristallisé, s'est grippé peut-être même.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, il y a une histoire de la technocratie française de la création de l'école polytechnique en 1794, mais allons vite. La création de l'ENA, c'est une démocratisation en 1945. Hein. Avant, on rentrait dans les grands corps, inspection des finances, cour des comptes, sur dossier, hein, c'est-à-dire la création de l'ENA par Debré, ça a été une forme de démocratisation. Une seconde étape de démocratisation, c'est d'amener toute une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge au bac. Moi, j'ai regardé quand j'ai passé mon bac, en 1976. C'était 33% d'une classe d'âge. Maintenant, c'est 77% d'une classe d'âge. Le problème, c'est qu'il y a eu un impensé total, aussi bien à droite qu'à gauche, de l'enseignement supérieur.
Oui, quand on emmenait les gens au bac, il fallait peut-être imaginer ce qu'ils pouvaient faire ensuite.
Absolument. Donc il y a un impensé absolu, c'est-à-dire il fallait organiser un parcours universitaire, peut-être même plus d'universités, je n'hésite pas à le dire. Et donc voilà, faudrait faire attention aussi avec cette perspective historique à ne pas se laisser piéger dans un débat qui est fondamental, certes, mais à côté de ça, est-ce que c'est important d'avoir 25 polytechniciens en plus, 10 normaliens en plus, alors que le problème c'est l'enseignement supérieur dans sa globalité et que tout ce qu'on voit qui se fait à côté va dans un sens contraire, hein, on sépare les grandes écoles de l'université, enfin on y reviendra je pense, donc c'est important.
Oui, parce que pour ajouter un peu dans ce sens, on peut rappeler qu'un étudiant en classe préparatoire coûte 40% en plus qu'un étudiant à l'université et que selon les estimations, les étudiants en grande école coûtent à peu près le double d'étudiants à l'université. Donc ça pose aussi une question, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on veut en amener quelques-uns à bénéficier d'un enseignement très favorisé ou alors est-ce qu'on met les moyens pour qu'un plus grand nombre puisse accéder à un enseignement peut-être moins excellent entre guillemets, mais en tout cas qui bénéficierait à un plus grand nombre.
Je vous propose de réécouter quelqu'un qui avait mis les pieds dans le plat d'une certaine manière, on pourra discuter ce qu'il en a fait. C'était Richard Descoings le 6 janvier 2010 sur France Inter, c'était il y a 9 ans et certains de ses propos peut-être encore entendus aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les concours sont à égalité puisqu'ils placent sur la ligne de départ un tout petit nombre de jeunes qui ont été hyper formatés, non pas pour être bons dans l'absolu, pour être bons dans l'épreuve qu'on leur fait passer. On sait très bien que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont été le mieux formés à cet instrument qu'est le concours. Le concours, il n'est pas bon dans l'absolu. Il permet juste, à un moment donné, de vérifier que les jeunes qui se présentent au concours ont été les mieux formés à ce concours. Il ne dit pas grand-chose sur la qualité intellectuelle, il ne dit pas grand-chose sur d'autres compétences. Mmh. Le concours, soit ça confirme un statut social, et ça, c'est de plus en plus le cas, on est titulaire d'un concours de père en fils ou de mère en fille, soit ça le confère. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus, par exemple, à choisir des ingénieurs. À l'X, c'est la plus belle école des ingénieurs. La moitié des X ne sont jamais ingénieurs. Ils sont devenus traders, d'ailleurs. On a oublié ce qu'était le but des grandes écoles et on a oublié ce qu'était le but des concours.
Richard Descoings, qui dirigeait Sciences Po, c'était le 6 janvier 2010, à propos de ce que voulait faire à l'époque le gouvernement, 30% de boursiers par promotion dans ces grandes écoles. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce surplace qu'on a l'impression de vivre, Nassim Larfa?
Pour rebondir sur les propos de Monsieur Descoings, il y a une vérité qu'il faut retenir et qu'il faut rappeler. Il n'y a aucun mode d'évaluation qui n'est neutre face à la diversité des élèves. Que ce soit un oral, que ce soit un écrit, qu'importe le biais.
Donc si on met un oral maintenant donc à Sciences Po et plus un écrit, pour une épreuve écrite, il y aura toujours une discrimination potentielle.
Il y aura toujours une discrimination. Qu'importe les critères d'évaluation retenus, on favorisera toujours un mode d'expression. On peut juger sur l'expression orale de l'élève, sur sa connaissance, sur sa qualité à aborder la chose de manière ésotérique, etc. Il existe énormément de modes d'évaluation qui ne prennent jamais en compte toute la diversité des élèves. Et du coup, Richard Descoings dit aussi une chose très intéressante, vous avez mentionné le taux de boursiers, donc objectif 30% de boursiers. Il faut savoir que quand même, et rappeler que sous le quinquennat Hollande, il y a eu un élargissement des personnes qui aujourd'hui bénéficient des bourses, etc. Et finalement, aujourd'hui, être boursier, ça reflète une réalité très, très hétérogène. Par exemple, je suis persuadé que l'accès aux grandes écoles, aujourd'hui, se fait généralement pour des échelons de bourse les plus bas et on n'arrive jamais à aller chercher ces échelons de bourse les plus élevés. Encore une fois, ça revient du coup à mon premier propos, c'est encore une fois parce que ces dispositifs interviennent en classe de terminale et là encore, là le système français n'a pas résolu sa vraie problématique d'égalité des chances. Hein. Système français qui est quand même, faut le dire, souvent pointé du doigt par l'enquête PISA qui du coup critique l'égalité des chances dans le système français.
Et puis ça pose une autre question, Nesrine Slaoui, c'est la question de ce que l'on fait vis-à-vis de sa propre famille. Quand j'imagine que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont lu Didier Ayrémon, Retour à Reims, évidemment tout le travail qui a été fait par Bourdieu sur le transfuge de classe. C'est-à-dire comment on s'arrache d'un de ces milieux pour pouvoir aller dans un autre milieu et les difficultés que ça peut poser aussi de vouloir soit être fidèle à ses origines, à sa famille, à la façon dont on envisage de vivre avec elle. Et peut-être de la quitter pour pouvoir faire tout autre chose.
Et c'est tout le problème, parce qu'il y a cette question-là de combien de boursiers on met effectivement dans les classes, mais c'est surtout comment ils s'intègrent et qu'est-ce que ça signifie en fait venir d'un milieu populaire, venir d'un milieu très populaire, quand on parle par exemple des banlieues françaises, qu'est-ce que ça signifie en fait d'entrer à Sciences Po, une fois qu'on a passé le concours, une fois qu'on a réussi en fait ce challenge, parce que moi je vois vraiment ça comme un challenge pour nous, ça l'a été, je parle pour Nassim et pour moi, et en même temps, qu'est-ce que ça signifie, surtout en termes de violence sociale, d'entrer dans une grande école, de voir, par exemple, moi,
je veux dire qu'il n'y a pas simplement de la joie.
Non, je vais citer une phrase de Jamel Debbouze. C'est pas une référence en sociologie, mais
c'est une référence.
Mais un jour, il a dit une phrase et je me la suis répétée tout le temps dans ma scolarité à Sciences Po. Il a dit :« Je n'ai pas découvert que j'étais pauvre quand j'étais chez moi. J'ai découvert que j'étais pauvre en découvrant le 6e arrondissement de Paris.
Ouais. »
Sciences Po Paris se trouve dans le 6e arrondissement.
Il a donc déménagé de Trappes au 6e arrondissement.
Voilà, exactement. Et moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que je me suis découverte pauvre en allant dans une grande école et en ayant un fossé qui se crée par rapport à mes parents. Et c'est très compliqué parce qu'on essaye aussi de ne pas être un traître de classe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le mépris de ce qu'on était. Et en même temps, on ne sera plus jamais. On ne sera plus jamais populaire, mais on ne sera jamais bourgeois. Mmh. Et c'est en entre-deux où on est beaucoup à se trouver pendant nos études à Sciences Po. Et c'est une crise identitaire finalement à long terme.
Les questions que se posent Didier Ayrémon ou encore Édouard Louis, oui, sur ce point, Nassim Larfa.
Totalement, Madame Slaoui, sur cette question. Après, j'ai une position qui a tout de même évolué, notamment sur les questions de storytelling personnel. En général, on aime bien vanter quelques cas qui ont réussi dans ces grandes écoles à travers ce qu'on appelle l'égalité républicaine, la méritocratie républicaine, etc. Mais j'ai quand même... Je tiens à souligner qu'en réalité, ces cas qui ont réussi, comme Nesrine ici, peut-être moi, pour certains, ça, je sais pas, ça permet aussi, et ça a vraiment le défaut de poser un voile pudique. Et je vous avoue que dans la période actuelle, ça peut prêter à confusion et à réaction sur une réalité du système qui est que finalement, pour 90% ou 95% des personnes, la situation n'évolue pas. Et il y a finalement ce phénomène de reproduction sociale qui est vraiment ancré. Donc toujours quand même remettre en contexte sociologiquement, comme du coup le fait Nesrine dans son intervention, ces quelques cas qui réussissent.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande étoile. Pourquoi ne suis-je pas sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte.
Vous écoutez le temps du débat. Peut-on démocratiser les grandes écoles avec quatre invités, Alexandre Moati, Nesrine Slaoui, Nassim Larfa et Marianne Blanchard. Et vous venez d'écouter évidemment Ayam, né sous la même étoile. Alexandre Moati, dans les propositions qu'il y a eu de fait, justement après la demande du gouvernement, en particulier Frédéric Vidal, il y a eu cette proposition de surnoter les boursiers au concours et qui a été immédiatement critiqué, par exemple, par la philosophe Chantal Delsol dans Le Figaro, disant qu'on mettait, une trahison de l'idée de mérite. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette petite musique qu'on répète tout le temps de la méritocratie républicaine, effectivement, des instituteurs de la Troisième République, de ceux qui poussaient les boursiers depuis le milieu rural pour pouvoir devenir des instituteurs eux-mêmes ou des professeurs et donc ainsi grimper dans l'échelle sociale.
Alors, la méritocratie, c'est intéressant parce que moi, d'une certaine manière, je vais faire mon storytelling aussi. Après tout, là, on est entre nous.
Oui.
moi, j'étais fils de pharmacien à Sarcelles et c'est une prof de maths qui dit, une prof de technologie faisant fonction de prof de maths qui dit, vous devriez l'envoyer dans un lycée parisien. Je rentre dans un lycée parisien en première. Donc, ça existait. J'ai mis du temps à me convaincre que la méritocratie, ça n'existe plus. Quoi. Enfin, c'est impossible. Quoi. C'est plus possible avec je mets aucun caractère négatif, la massification de l'enseignement supérieur. Mais
vous voulez dire que c'est le storytelling de la nation qu'on est en train de faire quand on parle de méritocratie.
Voilà, c'est ça, et qui est dépassé, quoi, parce que on peut pas avec une massification, enfin au sens le plus neutre, 80% d'une tranche d'âge au bac. Donc voilà, faudrait pas qu'on se mette à construire une université à deux vitesses, c'est-à-dire que vous me direz, il y a grande école et université, ça paraît être deux vitesses, mais il faut pas accentuer cet aspect-là. Moi, quand je vois qu'on sépare en 2015, on a séparé la seule tentative qui existait de rapprocher l'X de l'université d'Orsay, elle a été vraiment séparée d'un coup d'un seul en 2015, et ça, c'est vraiment fort déplorable.
Parce que les grands corps dont vous parliez tout à l'heure et qui étaient pointés du doigt n'en voulaient pas.
Oui, absolument. Oui, c'est un gros problème ça. Et donc, alors que justement, à un endroit où il y a une des meilleures écoles d'ingénieurs, Palaiseau, et une des meilleures facs, Orsay, c'était intéressant, surtout que ça surdétermine l'ensemble de l'enseignement, ces choses-là. Donc, et si je peux me permettre aussi, je suis un peu inquiet, on lance des... Par exemple, cette classe préparatoire aux grandes écoles là, qui avait été créée en 2006, reprise dans le discours dont je parlais tout à l'heure de Sarkozy en 2009. Donc, c'était intéressant, c'était M. Olivier Coquart qui a créé ça en 2006 à Henri IV et d'autres sans doute. voilà, c'était une année de préparation pour les boursiers aux classes préparatoires, aux grandes écoles. Eh bien, voilà, c'est en train d'être modifié, c'est intégré maintenant dans un cycle de 3 ans qui est PSL, où il y a PSL, c'est que des grandes écoles, pas d'université.
Paris Sciences et Lettres.
Paris Sciences et Lettres, tout à fait. C'est comme le bachelor de Polytechnique, etc. Donc voilà, les bonnes initiatives, on a l'impression qu'elles sont reprises dans des choses qui sont beaucoup plus, le PSL, ça devient un truc très sélect maintenant. Hein, voilà.
Marianne Blanchard.
Oui, alors je voudrais rebondir sur cette question de la méritocratie. Alors, est-ce que la méritocratie a existé à un moment? Enfin, dès les années 60, Pierre Bourdieu a parlé d'idéologie méritocratique. On est quand même dans un discours de légitimation des élites en France, qui est finalement les élites, ce sont celles qui sont méritantes, ce sont celles et ceux qui ont réussi à passer ces concours difficiles, et donc ça justifie leur position, ça justifie la domination qu'ils peuvent avoir, ça justifie les inégalités, ce que disait Richard Descoings, les gens partent pas, enfin, sur la même ligne, mais on est sur des inégalités qui se construisent dès l'enfance. Le récent ouvrage collectif sous la direction de Bernard Lahire montre bien que dès l'âge de 5 ans, il y a des différences énormes entre les enfants.
C'est à la découverte sur les inégalités.
Voilà, sur enfance de classe. Voilà, ils disent ces enfants naissent dans la même société, mais ne vivent pas dans le même monde. C'est-à-dire que ce soit au niveau matériel, au niveau de l'acquisition du langage culturel, etc. Dès l'âge de 5 ans, on a des différences énormes qui ensuite vont être accentuées par les inégalités du système scolaire lui-même. On parlait de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Les élèves en moyenne sur leur scolarité ont un an de cours en moins faute de remplacement.
Oui, Nassim Larfa.
Sur cette question de l'inégalité, bien évidemment. Et là, c'est là aussi que le bât blesse, hein, quand on regarde justement les budgets que la France octroie à l'éducation nationale. On sait que ça se joue dès la petite enfance, vous l'avez rappelé à Madame Blanchard. Et là, on voit, quand on regarde le budget de la France, que finalement, parmi les pays de l'OCDE, c'est là où la France investit le moins. La France investit 25% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE dans cette tranche d'âge. Donc c'est dans cette tranche d'âge où tout se joue en matière d'égalité.
C'est pourtant ce que dit Jean-Michel Blanquer. Il dit, on s'intéresse, effectivement, c'est pour ça qu'on va dédoubler les classes, etc., etc.
Typiquement, ce genre d'initiative de dédoublement de classes pour avoir un suivi plus spécifique, c'est des très bonnes initiatives. Mais encore une fois, derrière, il y a toujours la question du budget pour accompagner, justement, savoir. Le chiffre, il est terrible aujourd'hui, ce chiffre d'un an de retard pour un élève qui est scolarisé en Seine-Saint-Denis. Un an de retard quand il va passer son bac en fin d'année, etc. Comment demander d'avoir les mêmes résultats quand on bénéficie d'un an de retard?
Et puis, il y a tout de même une question qu'on pourrait poser plus générale, c'est est-ce qu'il faut attendre du système scolaire de gommer toutes les inégalités? Peut-il le faire? Est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, une sorte de mission qu'on lui donne qui est absolument impossible à tenir, Marianne Blanchard, du moins avec les moyens qu'on lui donne pour l'instant?
Alors, on ne lui demande pas de gommer les inégalités, mais en l'état, il les aggrave. Donc, si déjà on pouvait rester avec le même niveau au début et à la fin.
Alexandre Moati, quand vous avez été candidat à la présidence de l'IX, donc de Polytechnique, votre candidature n'a pas été retenue. Est-ce que ces questions de démocratisation en tant que candidat, vous les posiez? Vous les posiez comment? Par exemple, j'ai appris en lisant le rapport qui avait été remis par des anciens de l'IX avec une association qui s'appelle la Sphinx, oui, qui voulait démocratiser donc justement l'accès à l'IX, que 50% de ceux qui entraient à l'IX venaient de deux lycées.
Oui,
donc un lycée parisien et un lycée versaillais, c'est quand même très étrange. Ça veut dire que il y a donc deux lycées qui forment la moitié de ceux qui rentrent à l'IX.
Oui, parce qu'il n'y a pas que des inégalités sociales, et des inégalités territoriales. Un bon élève à Brest ou à Besançon, il n'a pas ses prépas qui sont à côté de lui non plus. Hein. Alors, pour répondre à votre question sur ce qu'on avait pu proposer, ce que certains anciens élèves ont proposé, là, jeunes anciens élèves, on va dire, c'est d'augmenter le recrutement universitaire. C'est-à-dire de passer... Alors là, ce qui est proposé, c'est très timide, c'est passer de 28 à 50 en 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure, 22 polytechniques.
C'est proposé par le président de l'IX actuel.
Oui, moi j'avais proposé. Et ses élèves surtout proposent faire la moitié, c'est-à-dire 140 élèves issus de l'université française, 140 issus des universités étrangères comme c'est le cas actuellement, et 280 issus des concours. Bon voilà. Moi je Il y a un aspect inégalité qui est important aussi, qui me paraît important, et je vais citer la personne qui a créé cette prépa là d'Henri IV dont je parlais, qui me paraissait très intéressante de préparation aux grandes écoles. C'est sur le niveau, il dit que la maîtrise des formes du raisonnement mathématique ou très simplement la maîtrise convenable de la syntaxe ou de l'orthographe ne sont plus des conditions nécessaires pour obtenir le baccalauréat. Je pense qu'il faut que ce soit dit, ça. Je cite Olivier Coquart là, du lycée Henri IV. Une fois qu'on...
Vous dire qu'en élargissant trop la base de ceux qui ont le baccalauréat...
Non, une fois qu'on a laissé le niveau se dégrader ainsi, ça défavorise ceux qui sont de milieux sociaux plus défavorisés. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut plus jauger les élèves sur des aspects techniques, des aspects qui soient littéraires ou scientifiques d'ailleurs, on va les juger sur autre chose, et ça c'est tout à fait gênant. Je pense que là, il faut vraiment ça fait partie d'une réflexion beaucoup plus globale de l'éducation nationale sur quels sont les prérequis à un niveau baccalauréat.
Marianne Blanchard.
Oui, sur le baccalauréat, de toute façon, on voit maintenant qu'avec Parcoursup, la sélection, l'admission à l'enseignement supérieur se joue avant, et que finalement, et par ailleurs, on est en train de là, avec la réforme actuelle du lycée, de diversifier complètement le bac, d'introduire une part de contrôle continu qui fait que finalement, effectivement, ce diplôme n'a plus d'unité, et que avoir son bac dans un lycée parisien ou dans un lycée de banlieue, ça vaudra plus la même chose. Mais bon, on est sur des logiques finalement, parce que la question de la maîtrise de la syntaxe, de l'orthographe, on peut supposer que ce ne seront pas ce que vous dites, c'est pas les mêmes qui vont être affectés par ces questions-là. Ça ne va pas être distribué aléatoirement dans la population. Donc, mais c'est à nouveau cette question d'amener le plus possible, le plus large possible, la population d'élèves à un niveau
suffisant. Avec un socle de connaissances, quoi. Et puis éviter qu'on soit trop près déterminé dans ses choix trop en amont. Mm-hmm. Quoi. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle, alors que l'enseignement supérieur, le lycée puis l'université devraient ouvrir les possibles. Quoi.
Nassim Larfa, une des questions, c'est que ces questions-là finissent par faire plaisir à des orientateurs privés, à des gens qui ont créé tout un marché, d'une certaine façon, de la stratégie pour pouvoir rentrer dans les grandes écoles et en bénéficier, par exemple, ce passage par l'international pour entrer à Sciences Po qui s'est filé de bouche à oreille ou d'orientateur privé à orientateur privé depuis quelques années, a permis à plein de gens qui ne pouvaient pas y prétendre en passant le concours de première année de partir 2 ou 3 ans à Londres, mais il fallait avoir l'argent pour pouvoir vivre à Londres ou à Warwick, et de revenir ensuite en tant qu'étudiant international pour pouvoir continuer la scolarité à Sciences Po, par exemple.
Bien sûr, et la question justement de l'information pour les élèves, elle est fondamentale. Je vais citer très rapidement l'enquête menée en 2013 par Agnès Van Zanten, qui se renseignait, qui a étudié du coup 7 lycées et qui a fait un différentiel entre ces lycées pour voir comment les élèves étaient informés de ce qu'on appelle l'orientation post-bac hier.
Elle a mis des mouchards sur les ordinateurs d'une salle de cours et elle leur a demandé de s'orienter à partir de ce qu'ils trouvaient sur le net, et ils pouvaient avoir une connaissance du net pour trouver le meilleur chemin pour pouvoir aboutir à leur but. Ouais.
Et le constat qui est posé est vraiment sans équivoque. Il y a d'un côté des élèves qui sont très informés sur la réalité du système, sur les moyens d'accéder à des métiers, d'accéder à des universités, et dans d'autres cas, c'est encore le cas notamment des lycées situés dans le réseau d'éducation prioritaire, où il y a une information qui est soit moindre, soit quasi inexistant.
On pourrait y ajouter aussi des espaces ruraux qui étaient loin, comme le dit Alexandre Moati, qui sont loin des grands centres, qui sont loin aussi des grands lycées qui permettent justement de préparer les concours, etc., qui font qu'on n'est pas forcément non plus dans ces endroits-là très au courant de comment faire pour pouvoir obtenir telle ou telle école et passer au-delà du bac.
Et à partir de là, c'est ce qui conduit à des échecs dans l'orientation. Hein. J'ai plus les chiffres, mais les taux d'échec en première année de licence à l'université sont très importants, parce qu'il y a ce problème d'information. Et ça, ce problème d'information, il est vraiment fondamental si on veut être amené à résoudre la question scolaire.
Nesrine Slaoui.
Moi, je ne pense pas que ce soit qu'une question d'information. Évidemment, c'est important, mais je pense que l'information, des fois, est liée mais elle est négative. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont au courant du processus à suivre pour faire tel ou tel métier, et ils se retrouvent en fait face à la violence du système éducatif et parfois à des professeurs décourageants qui leur disent cette école n'est pas faite pour toi, ce chemin.
Ça vous est arrivé?
Toi, ça m'est arrivé, mais on va essayer de sortir de mon cas personnel. Oui, effectivement, moi ça m'est arrivé, c'est violent, mais ça arrivait à beaucoup de gens que je connais. Après, je fais pas de la sociologie de comptoir avec mes proches, mais il y a ce phénomène-là qui arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on nous dit, même quand on a conscience des voix, en fait, les professeurs ont conscience que on part de très loin. Et ils ont ce réflexe d'essayer de nous protéger, en fait, pour nous dire attention, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ce qui avait été prévu, et c'est compliqué pour toi.
Et avec peut-être aussi l'anticipation d'un échec possible qui pourrait être encore très douloureux aussi. C'est peut-être aussi ça.
Et je pense qu'ils ont encore plus conscience de Bourdieu que nous, c'est-à-dire qu'ils savent ce que signifie le capital culturel, le capital économique et le capital social. Ils savent que ces élèves-là en sont dépourvus, donc ils essayent un peu de les protéger, je pense. Et ça a des conséquences négatives, évidemment.
Nassim Larfa, vous froncez les sourcils. Oui, pas d'accord.
Je pense les sourcils sur votre remarque, justement, avec cette idée de l'échec au concours qui serait finalement très mal vécu par les élèves. Du coup, à Ambition Campus, on suit chaque année entre 120 et 150 lycéens. À la fin, il y a seulement entre 20 et 25 admis à Sciences Po. Et je peux vous assurer que rien que le fait de se mettre dans une dynamique de concours en classe de terminale, d'être suivi, d'être tutoré, etc., ça crée vraiment une dynamique pour l'enseignement supérieur. Si bien qu'Ambition Campus a créé une série qui s'appelle Réussir Autrement, et où on voit du coup des cursus d'excellence qui se sont construits non pas à Sciences Po Paris, mais à travers d'autres cursus en université, en grandes écoles, par des classes préparatoires, par des DUT, des BTS, etc.
Marianne Blanchard ?
Oui, alors effectivement, le fait de ne pas réussir au concours, c'est pas forcément traumatisant, mais pour revenir sur ces questions des enseignants, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, c'est des choses qu'on voit plus généralement tous les travaux sur l'orientation, même l'orientation à la fin de la troisième, est-ce qu'on va en lycée général, voie pro. C'est-à-dire que les enseignants s'appuient un peu sur un raisonnement statistique, mais on sait bien que les parcours individuels, parfois, heureusement, contredisent les statistiques.
Et pour vous, Alexandre Moati, qui avait donc eu le parcours d'excellence que vous nous avez décrit, comment vous voyez justement cette réitération? Parce que depuis le début, on revient à un passé récent en disant, voilà, on voudrait réformer, on n'y arrive pas, les grands corps peut-être empêchent la réforme. Est-ce que vous avez un peu d'optimisme? Parce qu'il faudrait peut-être en insuffler à la fin de ce débat.
Oui, un petit peu, bien sûr. Moi, pas vous. Le poids de l'histoire est tellement important sur les affaires d'éducation que le poids de l'histoire, c'est grand. Encore qui existe depuis 200 ans, et puis cet aspect amener tout le monde au baccalauréat depuis 30 ans sans penser la suite, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que ce sont des structures et des faits qui sont très importants, et je crois qu'on peut pas dissocier les sujets, les saucissonner comme ça, de cette manière-là, et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Ça me paraît important, mais il y a des choses qui se font, heureusement, on en a la preuve autour de cette table, et qui avanceront, hein. Mais je pense qu'il faut une impulsion politique, dire il y aura qu'une, on va mettre partout des classes préparatoires, aux classes préparatoires, des classes de remise à niveau, sans forcément associer au terme de boursier d'ailleurs, parce que c'est un peu gênant, je trouve. Donc voilà, on dit de la classe de remise à niveau, et puis voilà quoi. Bah, par exemple, on mettrait ça dans tous les lycées, ça serait bien.
Oui, mais plutôt qu'une classe de remise à niveau, on pourrait aussi dispenser dès le départ un enseignant.
Oui, bien sûr, c'est un pis-aller.
Égal sur tout le territoire.
Voilà. Merci. On est d'accord.
Merci à toutes et merci à tous d'avoir participé à ce débat du temps du débat, donc consacré à la question de la démocratisation des grandes écoles. Le temps du débat, c'est Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Rémi Baille, Fanny Richer, Louise André, Gwendoline Troiano à la technique aujourd'hui, Alexandre Dang à la vidéo, Morgane Danan, et à la réalisation, Véronique Villa.